Philosophie éthique, Père Philippe, 10 janvier 1997, Saint-Jean-d'Arve.
Il y a une question. Ne pouvons-nous pas dire que la recherche de la vérité est une véritable intention de vie? C'est si délicat à répondre. Soit au sens fort, une intention de vie. L'intention naît avec la finalité. La recherche de la vérité est quelque chose de plus radical, plus fondamental. C'est une rectification. J'allais dire que c'est une condition nécessaire à quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu. Je crois. Oui, c'est plutôt comme condition de vie que comme intention de vie. Autrement dit, c'est une rectification fondamentale. Si vous voulez consacrer votre vie à Dieu, il faut cette recherche de vie. Ça vient comme une nécessité pour consacrer sa vie à Dieu. S'il n'y a pas une recherche de vie, une recherche de vérité, il ne pourra pas y avoir de vraie consécration à Dieu. Comme il ne pourra pas y avoir non plus une véritable amitié. Oui, c'est une condition de vie. Toujours au fond, l'intelligence et la rectification d'intelligence, c'est pas une intention, c'est quelque chose de plus radical. Dans notre vie, comme exigence de vie, celui qui n'a pas cette recherche de vérité ne peut pas se consacrer à Dieu. C'est impossible. Alors, j'explicite cette condition de vie. Ce point de vue de la recherche de la vérité. Dieu ne peut pas prendre possession de ma vie sans prendre possession de mon intelligence. Et Dieu prend possession de mon intelligence par cette intention, cette recherche de la vérité. S'il n'y a pas cette recherche de la vérité, il ne peut pas y avoir une consécration de notre vie à Dieu. C'est impossible. Oui. Donc, c'est une condition sine qua non pour pouvoir se consacrer à Dieu. Ça fait partie des éléments nécessaires pour se consacrer à Dieu. Alors, on l'explicite pour nous, parce que pour nous, avec le point de vue de la vie apostolique, s'il n'y a pas de recherche de vérité, ça peut être très grave. Mais pour nous, le Saint-Esprit s'en tirerait encore. Mais quand il s'agit des autres, ne pas avoir cette intention de la recherche de la vérité, c'est grave pour un apôtre. Parce qu'il entraîne d'autres dans des orientations qui ne sont pas justes. Pour soi, c'est déjà grave, mais c'est moins grave que pour un autre, parce qu'on se rectifie tout le temps. Un autre, on ne le voit pas tout le temps. Je crois, c'est assez délicat, mais ce n'est pas une intention de vie. Une intention de vie implique une finalité. C'est une finalité, mais une finalité qui est tellement fondamentale qu'elle demande de se préciser. C'est très fondamental, la recherche de la vérité. L'intelligence est faite pour vérité. Donc, s'il n'y a pas cette intention de vie, notre intelligence ne connaît pas cette rectification. On pourrait dire que c'est la rectification de l'intelligence. De la vérité est une exigence constante à laquelle il faut tout le temps revenir. On doit réactuer tout le temps cette recherche de la vérité. Marquez qu'une intention de vie demande de se rectifier tout le temps aussi. Un élément essentiel pour la vie apostolique. Je dirais ça, cette recherche de vérité. Un élément essentiel. C'est trop grave d'entraîner quelqu'un dans l'erreur et dans la moindre erreur. Ça lui fait perdre un temps énorme. Vous perdez du temps, vous. Mais c'est normal, vous en perdez du temps. Vous n'aviez qu'à faire plus attention. Mais quand on est responsable d'un autre, alors c'est beaucoup plus grave. Et nous, on paie les pots cassés. Si de fait, nous n'avons pas eu assez de courage de rechercher la vérité, parce qu'il faut beaucoup de courage. Quand on est dans un milieu dans lequel on ne recherche pas la vérité. Va comme je te pousse. Hein? Ça exprime très bien ça. Va comme je te pousse. On ne cherche pas vraiment la vérité. Dans des quantités de milieux, c'est ce qui se passe. On verra bien. Parce qu'on n'a pas assez d'acuité d'intelligence. Et là, il faut beaucoup de force pour chercher la vérité. Coûte que coûte. Ce qu'on verra, vous exagérez. C'est pas si commode, tu raison, on peut tous se tromper. Omnis ono homo mandax. Tout homme est menteur. C'est dans l'écriture, on ne peut pas le rejeter, ça. Tout homme est menteur. C'est pas parce que tout homme est menteur que je ne cherche pas la vérité. Au contraire, raison plus. Mais si vous êtes vous-même un homme, vous êtes menteur. Non, ne cherchez pas la vérité, c'est hypocrite. Oui, tout ce qu'on peut vous dire comme ça. Non. Vous savez bien que toutes ces questions-là sont délicates et qu'il faut accepter de rectifier des axiomes qui ne sont pas très vrais. Alors, normalement, la recherche de la vérité porte sur la fin. C'est un élément de ma recherche et de ma découverte de l'intention de vie. Normalement, la recherche de la vérité est un élément. Religieuse. Or, ici, nous regardons l'éthique humaine tout court. Mais c'est intéressant de voir que dans une éthique religieuse, ce point de vue, la recherche de la vérité est encore plus pressante. Je ne peux pas vraiment cette intention de vérité, s'il n'y a pas cette recherche de la vérité. Alors là, ça prend un caractère très urgent. dire que la recherche de la vérité est quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas le seul élément de ma vie. C'est un élément très fondamental, presque une condition sine qua non pour rectifier ma vie. Est-ce que quelqu'un qui ne recherche pas la vérité peut avoir une intention de vie droite? Non. Oui, ça fait partie intégrante de cette recherche de la vérité, de cette intention de vie. Alors, cette intention de vie qui implique la recherche de la vérité peut se préciser, n'est-ce pas? J'ai l'intention d'entrer en vie religieuse, éthique religieuse, pour l'éthique humaine tout court. J'ai l'intention de rechercher la vérité. Mais on dira tout de suite, mais comment? Ah, en entrant dans un ordre religieux qui a un souci de vérité. C'est vrai. Ça peut très bien être un signe de vocation. Le père de haut me disait toujours que quelqu'un qui a un souci de recherche de la vérité, qui le saisit très fort, c'est un signe pour lui de la vie religieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, étant donné la difficulté de rechercher la vérité, on comprend. Ou bien alors, on désire enseigner cela. Alors là, c'est encore une possibilité. Mais on comprend très bien que la recherche de la vérité dans notre monde d'aujourd'hui est une chose très difficile. Il n'y a pas beaucoup de lieux où l'on recherche vraiment la vérité. Un des pères qui sont là et qui enseignent au Brésil me disait que en philosophie, il était avec d'autres professeurs qui n'avaient aucun souci de vérité et qui disaient ouvertement, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce souci. On l'a pour soi, mais on ne peut pas le dire. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce sont des informations. Vous allez nous enseigner tel ou tel philosophe, Merleau-Ponty, avec ses erreurs. Vous allez nous enseigner Descartes avec ses erreurs. Vous allez nous enseigner tel ou tel philosophe sans souci de vérité, parce que la vérité, c'est impossible. Il y a un scepticisme constant, presque généralisé. Mais ça demeure quand même. Alors, ce souci de vérité, je veux l'expliciter. Et je vais préciser que dans la philosophie que j'enseignerai, ce sera avant tout le philosophe qui m'apparaît comme le plus proche de la vérité que je choisirai, que j'aimerai, comme un compagnon pour ne pas être seul, comme une béquille pour m'appuyer parce que ce sera trop dur. Oui. Alors à ce moment-là, on choisit quelqu'un, oui, on choisit tel philosophe pour nous aider comme moyen d'atteindre cette fin. Le philosophe qui nous semble le plus proche. Pourquoi ici on choisit Aristote? Parce que Thomas d'Aquin l'a choisi, c'est sûr. Mais aussi et avant tout parce qu'on juge que ce philosophe est un de ceux qui, pour la plupart des questions que nous cherchons au point de vue philosophique, nous apporte quelque chose. Un de ceux qui sont les plus proches de la découverte de la vérité. Un de ceux qui ont eu un désir de vérité très explicite. Et c'est pour ça qu'on choisit. La vérité. Je les aime tous les deux. Et la vérité, plus encore que Platon. Aristote dit ça. Donc il a eu aussi, lui, le dilemme de choisir. Alors, quand on dit qu'on aime plus la vérité, épanouir le plus possible en moi ce qui en moi peut s'épanouir, c'est-à-dire l'esprit. C'est déjà une précision dans la recherche de la vérité, dans la recherche du bonheur. Et au fond, c'est la première précision que j'apporte. Dans cette recherche de la vérité, dans cette recherche du bonheur, mais parce que je peux préciser que dans la recherche du bonheur, la recherche de la vérité est indispensable. Je ne peux pas dire que recherche de vérité et recherche du bonheur, ce soit égaux. C'est déjà une précision, une condition sine qua non du bonheur, la recherche de la vérité. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Alors c'est la première chose que je fais, voyez. Quand j'ai une intention de vie, j'essaie de voir comment réaliser cette intention de vie. Établissez vous-même cette petite hiérarchie. Bien. La fin. Voyez bien la différence. Le bien. Ce que tous aiment, voilà le bien. Mais comme c'est curieux, le bien se définit par l'attitude que j'ai vis-à-vis de lui. Je l'aime. Ce que vous ne connaissez pas encore et que vous n'aimez pas n'est pas votre bien. Ça devient votre bien quand vous l'aimez. Et ça, c'est vrai. Vous savez, quelquefois, on se trompe. On aime beaucoup l'alcool. On l'aime tant que c'est mon bien. Le jour où je commence à être malade, ça va plus du tout. Et le médecin dit, vous avez pris trop d'alcool. Dorénavant, vous n'en prendrez plus. L'alcool devient un mal pour vous. Et l'alcool n'a pas bougé. Il est resté à 90. Il n'a pas blanchi parce que c'est un mal pour vous. Pas du tout. Il bouge pas. C'est un mal pour vous. Parce qu'il vous fait mal. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un bien pour vous. Vous l'évitez. Et vous dites à tous ceux qui sont proches de vous, ne me présentez plus jamais une bouteille d'alcool. Parce que ça me fait mal. Et c'est plus fort que moi. Dès que je vois de l'alcool, oh, des vieux souvenirs. Alors ça va pas du tout. Donc, on demande de les garder. Alors voyez, le bien, ce que tous aiment. C'est ça le bien. C'est une drôle de définition. Hein. C'est la définition par effet, par l'effet. Le bien m'attire. Et il m'attire parce que je l'aime. L'amour, c'est attraction. La faim. Quelle différence entre le bien et la faim? C'est que la faim est un principe. Ah. Le bien n'est pas un principe. Ça peut être un principe, mais ça ne l'est pas en soi. Le bien, dans la mesure où il m'attire, dans la mesure où il exerce sur moi une attraction, il devient ma fin. Il devient un principe. La fin, elle est principe. Principe final, elle est fin. Principe final. Donc, la fin, dans la mesure où la fin m'attire, elle exerce sur moi cette attraction, elle est fin. La fin, c'est ce qui exerce sur moi cette attraction ultime et dernière, et qui met en route ce désir de l'atteindre. Donc, c'est le bien. Qui est fin. C'est la même réalité. C'est pas deux réalités différentes. Mais c'est le bien qui exerce sur moi une attraction. Quand le bien m'attire, il peut m'attirer d'une manière telle qu'il joue sur moi le rôle de fin. C'est-à-dire, il m'attire d'une façon telle que rien en dehors de ce bien m'attire autant. Un bien qui m'attire d'une façon telle qu'il m'attire plus que tous les autres joue le rôle de fin. Il joue le rôle de fin, oui. C'est le bien qui joue sur moi le rôle de fin. Il exerce sur moi le rôle de principe final, principe ultime, dernier. Oui, c'est pour ça que c'est pas si commode que ça à préciser. Si je réfléchis pas, c'est la même réalité qui est pour moi bien et fin. Toute fin est un bien. Tout bien n'est pas toujours une fin. Et il y a un lien entre les deux, un lien tel que je peux dire que tout ce qui exerce sur moi le rôle de fin est mon bien. Alors, ensuite, ce bien, il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. Et c'est parce que ce bien, il faut l'atteindre, que je vais chercher une distance. Je ne l'ai pas. Donc il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. C'est ma prudence qui me dit ça. C'est la prudence qui cherche les moyens. Les moyens pour atteindre la fin. Si je n'ai aucune fin, aucun bien ne joue sur moi le rôle de fin. Je ne cherche pas les moyens. Je suis un ressort complètement détendu. Je n'ai rien cherché. Rien ne m'intéresse. Donc je ne cherche rien. Alors vous essayez de souffler dessus. La braise est éteinte, on souffle dessus, puis elle se rallume. Et dès qu'elle se rallume, la faim réapparaît, le bien réapparaît. Et alors, à ce moment-là, quels sont les moyens qui me permettront d'atteindre cette faim? Il s'agit d'atteindre cette faim. Quels sont les moyens? Alors, quand il s'agit d'une faim matérielle, les moyens permettre de franchir cette distance. Quand il s'agit d'une fin intérieure, spirituelle, il faut que ma volonté se dispose vis-à-vis de ce bien à faire un effort, me lever plus tôt le matin pour pouvoir faire ma prière. Hein? On a tous fait ces efforts. Quand la cloche sonne à la place de mon réveil, c'est la cloche qui rappelle à tout le monde « prière, prière ». Et vous savez très bien que si vous ne voulez pas entendre la cloche, ça peut arriver. On est tenté de dire « oh, je suis très fatigué, je sais bien que le Père Maître, si je lui disais mon degré de fatigue, j'irais mon petit d'or ». On écoute comme ça la voix du Père Maître. Le Père Maître est venu. Le côté bon du Père Maître. Il y a un Père Maître qui est toujours très bon, tu vois. Alors le côté bon, tu es fatigué. Repose-toi un peu. Comme ça, tu seras plus charitable. Parce qu'on met toujours un très bon motif pour regarder uniquement sa fatigue. Alors à ce moment-là, on écoute ce conseil. Vous voyez ? Pour trouver les moyens, il y a la recherche. Il y a la recherche de ces moyens. Il y a une phase de conseil qui est au point très imaginaire. Parce que quand vous donnez à vous-même ce très bon conseil du Père Maître, c'est toujours un très bon conseil, quand on se donne à soi-même. Très curieux. La voix intérieure du Père Maître et la voix objective du Père Maître, il y a souvent un petit abîme entre deux. J'entends le Père Maître, il est toujours très bon le Père Maître. On me l'a dit, parce qu'il était très bon. Alors, s'il voit vraiment mon état, alors c'est l'imagination. Et j'aime beaucoup écouter l'imagination quand ça va dans mon sens. Parce que je suis fatigué. Et beaucoup plus fatigué que je peux le dire. Alors j'écoute ça. Ça le conseil. Le conseil est quelquefois plein d'imagination. Pour nous-mêmes. Quand on se donne de bons conseils, on se réveille. Et le matin, quand on vient de dormir, on a entendu la cloche sonner. Un peu lointain. Alors comme c'est un peu lointain, il y a la place pour l'imaginaire. Et on me dit, oui, au fond, il faut quand même être un peu sérieux. Si je fais trop long, je vais tomber malade. Ce sera pire. Oui. Il y a des tas de conseils comme ça. Ils sont là. Et qui passent devant. Qui pas seulement le bon conseil. Tu dois faire ça. Il faut un peu de courage. Puis de l'autre côté, non, pas trop. Je vais tomber malade. Il y a une épidémie de grippe. Alors fais attention. Parce que tu vas être malade, tu en auras pour 8 jours. Tandis que si tu reposes ce matin, tu en auras pour une journée. Donc c'est bien. Imagination. Dans les conseils de l'imagination, vous les connaissez bien. Vous êtes fervent dans les conseils de l'imagination. Une ferveur étonnante. Ça se rajeunit tout le temps. Alors, le conseil, attention à l'imagination. Parce que quand vous donnez à vous-même un conseil, vous puisez dans toute votre expérience et l'imagination augmente. Alors il y a le conseil quand c'est un autre. Vous avez choisi le bon conseil. À Fribourg, il y avait comme ça un lieu qui était un lieu de qui recevait les jeunes filles. Il s'appelait le bon conseil. Vous avez toujours des bons conseils. Et ordinairement, les bons conseils, c'est pas en faire de trop. Ça flatte. Alors, il y a le conseil, l'imagination ou la prudence. Il y a un petit triangle de base intéressant à voir. Le conseil relève de la prudence. Normalement, le bon conseil relève de la prudence. Le conseil moins bon relève de l'imagination. Et le conseil pervers, hein, on prend toujours on a toujours comme conseil la solution facile. Il y en a comme ça, hein. Ils ont été mal formés, ils n'en peuvent rien. Ils ont été mal formés. Ils ont eu quelqu'un qui perpétuellement lui dit, mais écoute, vois, ne brûle pas trop, va lentement, sois prudent. C'est plus la prudence, c'est l'imagination. Enfin, tout cela est présent en face de la fin. Les moyens. Ça prend beaucoup de place, les moyens. Énormément de place. Ça doit normalement dépendre de la prudence. Mais la prudence, c'est une vertu acquise. On ne naît pas prudent. On doit acquérir cette vertu. Alors, tant qu'on ne l'a pas acquise, qu'est-ce qui domine? L'imaginaire. Et l'imaginaire voit surtout les biens qui me conviennent. C'est l'oreiller qui attire. Je suis fatigué. Alors je peux rester encore un petit peu. Oui. C'est très curieux d'analyser les mauvais conseils liés à l'imaginaire. Avant d'acquérir la prudence. Quand on a acquis la prudence, on a acquis intérieurement une petite sagesse. La prudence, c'est une sagesse pratique. C'est une petite sagesse qui vient régler tous les moyens possibles. Les moyens, c'est les possibles. Sont des solutions possibles. Et le vrai conseil qui relève de la prudence fait partie de la prudence. Donc c'est intellectuel, c'est l'intelligence pratique, la prudence, sagesse pratique. Donc ça relève de l'intelligence. L'intelligence pratique, une intelligence avec intelligence affective, une intelligence qui voit ce qui me convient, ce qui va pour moi. Dans une petite délibération que je fais, alors c'est là où la délibération joue. À l'intérieur de cette sagesse pratique, il y a une délibération. Et la délibération se fait au niveau des moyens. C'est le conseil qui fait la délibération. Ceci est bon, ceci n'est pas bon pour moi. On pèse le bon et le mauvais. Cette phase du conseil, je suis certain, cette phase du conseil prend énormément de place. Parce que cette phase du conseil, cette phase de la délibération, c'est une phase de réflexion. On a l'immense avantage, c'est que on peut regarder le pour et le contre. On voit ce moyen qui se présente à moi, il est très bon, il sera sûrement très efficace, mais il exige un tel effort. Je serai très fatigué après. Oui, je peux me lever, c'est évident, mais je serai trop fatigué. De toute façon, le travail que je ferai ne sera pas bon. Donc ça ne sert à rien de me lever, parce que toute la matinée, je vais être dans un demi-sommeil entretenu, n'est-ce pas? Pas trop me fatiguer, donc ça ne sert à rien. Oui, on délibère sur la qualité du conseil, sur la qualité du moyen qui se présente à moi. C'est très bien de me lever, mais si je dors toute la matinée, ça ne sert à rien. Je n'arriverai jamais à écouter. Laissez saisir le pour et le contre. C'est-à-dire la voix de la conscience. Ah, la voix de la conscience, où est-ce qu'elle se situe? La voix de la conscience. Mais j'essaie, c'est très compliqué. Hein. Dès qu'il y a une délibération intérieure, c'est très compliqué. Et qui dit délibération, dit pour et contre. Alors, il y a la voix du conseil. La voix du conseil dit, ça frappe. Au bon moment, ça frappe toujours au bon moment. Il était temps d'arrêter. Oui. Et intérieurement, même si personne ne frappe, je dis oui, enfin, j'ai trouvé le bon moyen, c'est ça. Il faut faire ça. C'est la seule manière de s'en tirer. La conscience, c'est quoi? La conscience, elle surgit dans la prudence. La conscience morale, où j'ai pesé la petite balance intérieure. Me lever maintenant, c'est sûrement bien. On me verra avec les autres. On dira, c'est bien, il a eu du courage. Hier, il avait fait des choses. Donc, je vais monter dans l'estime. Ah! Je vais monter dans l'estime de ceux qui me verront. Puis on aura bien soin de bien se montrer. La conscience, elle juge intérieurement ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Ce qui me convient en fonction de la fin. La prudence regarde le point de vue de la fin. La conscience, elle est toujours liée à la fin. C'est ce qui convient. Ce qui convient à la fin. Ce qui, au contraire, est un obstacle à la fin. La voix de la conscience. Quand on parle de la voix de la conscience, elle n'a pas de voix. Hein. Elle est intérieure. Mais c'est quelque chose qui s'impose. C'est mon devoir. Oui, quand vous dites « c'est mon devoir », d'où ça vient, ça? C'est votre conscience. C'est votre conscience moralisante. Ah, il faut que je fasse ça. diminuerait dans l'estime de ceux qui sont mes supérieurs s'ils ne me voient pas là ce matin. Surtout qu'hier, j'étais pas présent. Alors, oui, on renchérit dans un sens ou dans l'autre. Et on essaie de saisir qu'est-ce qui, de fait, va aller bien ou pas. La conscience, le pour et le contre. C'est très difficile de bien savoir ce que c'est que la conscience.